bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Marthe, 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 c'est ça qui résonne. Tu te donnes beaucoup de mal, tu t'agites beaucoup. On a besoin de si peu. Au fond, dit le texte, on n'a pas besoin de grand-chose. Et tu sais que Marie semble avoir trouvé. Alors, vraiment, il y a ici toujours cette opposition, dira-t-on, entre ceux qui travaillent et puis ceux qui prient, comme si les deux choses s'opposaient. C'est évident que si Marthe n'avait pas été à la cuisine, ni Marie, ni Jésus, ni Lazare, ni personne n'aurait pu manger. Ni les disciples, parce que inviter Jésus, c'est inviter 12 autres personnes avec. Donc il y avait un sacré travail à faire, si je peux me permettre. Donc il y a ici quelque chose de profondément humain qui est en jeu. Fallait-il préparer à manger pour 15 personnes ou pas? Tu te démènes pour peu de choses. Jésus lui-même, qui apparemment, vu sa carcasse, 180 m et la force qu'il avait pour porter sa croix un jour, c'était pas quelqu'un qui devait manger rien du tout. Donc il y a ici quelque chose d'arrangé. Je me demande si cette scène a eu lieu comme cela. Parce qu'elle est trop pas vraie. C'est pas qu'elle soit injuste, trop pas vraie. En tout cas, le problème demeure. Que fait-on quand on fait de la bouffe pour 15 personnes? Que fait-on quand on s'assoit auprès du parleur, ici Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, à l'écouter? Voilà. Peut-on pas écouter de la cuisine? Ne peut-on pas faire en même temps la bouffe et écouter celui qui parle? Hein, rappelez-vous, très souvent, pour parler avec votre mère, vous alliez vous asseoir sur une chaise à la cuisine, parce qu'il fallait bien que le repas fût préparé. En même temps, vous aviez envie d'être avec votre mère, et votre mère était très contente de vous avoir à côté. Bref, c'est pour ça que ça me paraît un peu construit, cette chose. Mais je répète, la question qui est posée est aussi importante. Continuons avec Luc sur le chemin de Jérusalem.
Jésus baissait les bras maintenant, mais il reprit la parole. Supposons qu'un ami vienne vous réveiller au milieu de la nuit pour vous demander 3 pains parce que quelqu'un est arrivé chez lui à l'improviste et qu'il n'a rien à lui offrir. Qu'allez-vous lui répondre? Tout est bouclé, nous sommes tous couchés, ne m'oblige pas à me lever à 7 heures. Je crois plutôt que même si le fait qu'il soit votre ami ne vous fait ni vous lever, ni lui donner quoi que ce soit, vous vous lèverez quand même et vous lui donnerez ce qu'il réclame pour avoir la paix. Croyez-moi, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je vous dis qu'on ne refuse rien à qui insiste, que le chercheur finit par trouver et que la porte s'ouvrira si l'on frappe assez longtemps. Il y a parmi vous des pères de famille. Allez-vous donner un serpent à votre fils s'il vous demande un poisson? Allez-vous lui donner un scorpion quand il vous demande un œuf? Alors, vous voyez, tout pervers que vous êtes, vous ne savez rien refuser à vos enfants. Imaginez combien le Père du ciel est plus disposé encore à accorder l'esprit de sainteté à ceux qui le demandent. Pour la première fois, Jésus était en train de délivrer un homme d'un mauvais esprit qui le rendait muet. Et voilà que l'homme, tout heureux, se mit à parler, ce qui eut comme de coutume un certain succès, mais comme de coutume aussi certains murmurèrent. C'est Belzébuth, le chef des mauvais esprits qui lui donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits. D'autres le mirent aussi en demeure de prouver illico Christo qui détenait son pouvoir du ciel. Mais Jésus, qui n'était pas dupe, sentait tout cela. Tout royaume divisé contre lui-même est voué à sa perte. Toutes ses constructions s'effondrent. Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il se maintenir? Vous me dites que c'est Belzébuth qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Si ce que vous dites est vrai, par quel pouvoir vos partisans les chassent-ils donc? Ce sont eux qui vous condamnent. Et si c'était par la puissance même de Dieu que je fais ça? Eh bien, cela voudrait dire que son royaume est déjà venu jusqu'à vous. Si un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais s'il survient un homme plus fort que lui et qu'il le batte, c'en est fait de ses armes et de ses biens. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Quand un esprit mauvais abandonne l'homme qu'il tourmentait, il s'en va errer dans les déserts pour chercher le repos. S'il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner d'où je viens ». Quand il revient et qu'il constate que tout est en ordre, il s'en va chercher sept autres esprits pires que lui. Ils prennent possession du malheureux dont l'état maintenant est plus terrible qu'avant. Des gens pleuraient en l'écoutant. Ils devaient se rappeler certains souvenirs, certaines situations, certaines réalités. De la foule, la voix d'une femme s'éleva vibrante. « Quelle est heureuse la mère qui t'a nourrie !» Mais Jésus rétorque « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique !» La foule ne dispersait pas. Au contraire, Jésus ravala sa salive. Il se sentait un peu las à la longue. Il regarda ses disciples. Ils lui sourirent comme pour l'encourager. Alors il repartit. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils recherchent la sensation. Eh bien, en matière de sensationnel, ils devront se contenter de l'effet Jonas. De même que Jonas a fait l'effet d'un détonateur pour les habitants de Ninive, le Fils de l'homme jouera le même rôle pour les gens d'aujourd'hui. Quand il faudra rendre des comptes, la reine de Saba se réveillera avec mes contemporains, et elle sera leur accusatrice, parce qu'elle s'est déplacée, elle, depuis les confins de la terre pour écouter Salomon le sage, et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront eux aussi ce jour-là, et ils feront de même parce que eux aussi, ils ont changé de vie comme Jonas le leur demandait. Et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un seau. Une lampe, ça se met sur le lampadaire pour que tous ceux qui arrivent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps aussi est lumineux. S'ils sont en mauvais état, tout ton corps aussi est sombre. Prends donc garde qu'en toi-même la lumière ne devienne ténèbres. Et si ton corps est lumineux, sans aucune tache d'obscurité, alors il sera aussi lumineux que la lampe quand elle t'illumine de son éclat.
C'est une prolongation de la prière qui nous est proposée. malgré la diversité des exemples que vous venez d'entendre et les différents apports de Luc. La prière est active. Elle n'est pas simple passivité. Elle peut être de contemplation et de présence, mais une présence qui se nourrit de quoi ? De recherche, qui se nourrit de demande. Mais de demande de quoi ? Et voilà toute la clé du frapper, on vous ouvrira, insister, etc. Cherchez, vous trouverez. Il s'agit de la volonté de Dieu. Il s'agit de savoir ce dont Dieu a besoin de moi et ce que moi je peux faire avec lui pour les autres. C'est-à-dire, c'est l'écho que Jésus renvoie à cette femme qui crie depuis la foule, d'après Luc, « Heureuse les mamelles qui t'ont nourri, heureuse la personne qui t'a donné son sein, heureux ta mère, heureuse ta mère. » Oui, bien sûr, heureuse ma mère, et peut-être que Marie est par là, à l'écouter. Mais bien plus heureux encore, c'est-à-dire le bonheur, le véritable bonheur, c'est de cette relation à Dieu, c'est ça la prière, qui nous fait sentir comme divinement ce que Dieu attend de moi, comme ce que j'attends de Dieu. Ce n'est pas une demande extérieure à Dieu, mais Dieu ne m'impose pas quelque chose d'extérieur à moi. Il y a ce rapport dialectique entre lui et moi, de ce que je dois faire, de ce qu'il me demande de faire, de ce qu'il doit faire, de ce que je lui demande de faire, et c'est dans ce faire en commun qu'est la vie et le bonheur. Un autre aspect qui est très très beau avec ces deux exemples merveilleux de Jonas et de la reine de Saba par rapport aux contemporains. C'est donc pas ceux qui sont proches qui sont le plus proche. Ce n'est pas ceux qui sont loin qui sont le plus loin. Quand on a senti en soi, entendu en son cœur, quand on a fait l'expérience de ce qui est le plus profond de notre être, qu'on soit habitant de Ninive ou qu'on soit habitant de l'Érythrée, comme la reine de Saba d'une part et les gens de Mossoul d'autre part, puisque c'était l'ancienne Ninive, la ville de Mossoul au nord de l'Irak, alors il se passe quelque chose. On est, comme on dit, touché. C'est-à-dire que la pointe a trouvé le cœur de la cible. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut faire. Mais il faut être touché. Voilà encore un aspect de la prière. Nous pourrons prier comme, à travers ces textes de Luc, que les choses se passent, que si on a été touché, alors mettez un autre mot, concerné, si ça nous dit quelque chose, si nous avons été sensibilisés à ce genre de comportement, d'action, puisque la prière est une action. Dans ce cas-là, j'allais dire, peu importe si vous êtes pratiquant ou pas, soyez-le, ça peut vous aider, on y entend de très bonnes choses. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir inauguré, de par la grâce, nous dira le texte, mais d'avoir inauguré, d'avoir su inaugurer, ou de s'être laissé inaugurer dans un rapport, une relation telle que je suis en Dieu, Dieu est en moi, nous sommes ensemble, et la prière c'est cette cohabitation de Dieu en moi, de moi en lui, et si je dois mettre en route, quel que soit l'âge, le lieu, le temps, ça n'a pas d'importance, toute rencontre est unprojectable, on ne peut pas la prédire, elle se passe. Il semble qu'elle ne se passe pas parfois, mais là est le mystère de la destinée.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.